C'est peut-être d'une impression ressentie aussi auprès de Montjouvain quelques années plus tard, impression restée obscure alors, qu'est sortie bien après l'idée que je me suis faite du sadisme. On verra plus tard que, pour de tout autre raison, le souvenir de cette impression devait jouer un rôle important dans ma vie. C'était par un temps très chaud, mes parents, qui avaient dû s'absenter pour toute la journée, m'avaient dit de rentrer aussi tard que je voudrais. Et étant allé jusqu'à la mare de Montjouvain, où j'aimais revoir les reflets du toit de tuiles, je m'étais étendu à l'ombre et endormi dans les buissons du talus qui domine la maison, là où j'avais attendu mon père autrefois un jour qu'il était allé voir M. Vinteuil. Il faisait presque nuit quand je m'éveillai, je voulus me lever, mais je vis Mademoiselle Vinteuil, autant que je pus la reconnaître, car je ne l'avais pas vue souvent à Combray, et seulement quand elle était encore une enfant, tandis qu'elle commençait d'être une jeune fille, qui probablement venait de rentrer en face de moi, à quelques centimètres de moi, dans cette chambre où son père avait reçu le mien, et dont elle avait fait son petit salon à elle. La fenêtre était entr'ouverte, la lampe était allumée, je voyais tous ses mouvements sans qu'elle me vît. Mais en m'en allant, j'aurais fait craquer les buissons, elle m'aurait entendu, et elle aurait pu croire que je m'étais caché là pour les pieds. Elle était en grand deuil, car son père était mort depuis peu. Nous n'étions pas allés la voir. Ma mère ne l'avait pas voulu à cause d'une vertu qui, chez elle, limitait seule les effets de la bonté, la pudeur. Mais elle la plaignait profondément. Ma mère se rappelait la triste fin de vie de M. Vinteuil, tout absorbé d'abord par les soins de mère et de bonne d'enfant qu'il donnait à sa fille, puis par les souffrances que celle-ci lui avait causées. Elle revoyait le visage torturé qu'avait eu le vieillard tous les derniers temps. Elle savait qu'il avait renoncé à jamais à achever de transcrire au net toute son œuvre des dernières années, pauvre morceau d'un vieux professeur de piano, d'un ancien organiste de village, dont nous imaginions bien qu'ils n'avaient guère de valeur en eux-mêmes, mais que nous ne méprisions pas, parce qu'ils en avaient tant pour lui, dont ils avaient été la raison de vivre avant qu'il les sacrifiât à sa fille, et qui pour la plupart, pas même notés, conservaient seulement dans sa mémoire, quelques-uns inscrits sur des feuillets épars, illisibles, resteraient inconnus. Ma mère pensait à cet autre renoncement plus cruel encore, auquel M. Vinteuil avait été contraint, le renoncement à un avenir de bonheur honnête et respecté pour sa fille. Quand elle évoquait toute cette détresse suprême de l'ancien maître de piano de mes tantes, elle éprouvait un véritable chagrin et songeait avec effroi à celui, autrement amer, que devait éprouver Mademoiselle Vinteuil, tout mêlé du remords d'avoir à peu près tué son père. « Pauvre monsieur Vinteuil, disait ma mère, il a vécu et il est mort pour sa fille, sans avoir reçu son salaire. Le recevra-t-il après sa mort, et sous quelle forme? Il ne pourrait lui venir que d'elle. » Au fond du salon de Mademoiselle Vinteuil, sur la cheminée, était posé un petit portrait de son père, que vivement elle alla chercher au moment où retentit le roulement d'une voiture qui venait de la route. Puis elle se jeta sur un canapé et tira près d'elle une petite table sur laquelle elle plaça le portrait, comme M. Vinteuil autrefois avait mis à côté de lui le morceau qu'il avait le désir de jouer à mes parents. Bientôt son ami entra. Mademoiselle Vinteuil l'accueillit sans se lever, ses deux mains derrière la tête, et se recula sur le bord opposé du sofa comme pour lui faire une place. Mais aussitôt elle sentit qu'elle semblait ainsi lui imposer une attitude qui lui était peut-être importune. Elle pensa que son amie aimerait peut-être mieux être loin d'elle sur une chaise. Elle se trouva indiscrète. La délicatesse de son cœur s'en alarma. Reprenant toute la place sur le sofa, elle ferma les yeux et se mit à bâiller pour indiquer que l'envie de dormir était la seule raison pour laquelle elle s'était ainsi étendue. Malgré la familiarité rude et dominatrice qu'elle avait avec sa camarade, je reconnaissais les gestes obséquieux et réticents, les brusques scrupules de son père. Bientôt elle se leva, feignit de vouloir fermer les volets et de n'y pas réussir. « Laisse donc ouvert, j'ai chaud, » dit son ami. « Mais c'est assommant, on nous verra, » répondit Mademoiselle Vinteuil. Mais elle devina sans doute que son ami penserait qu'elle n'avait dit ces mots que pour la provoquer à lui répondre par certains autres, qu'elle avait en effet le désir d'entendre, mais que par discrétion elle voulait lui laisser l'initiative de prononcer. Aussi son regard, que je ne pouvais distinguer, dut-il prendre l'expression qui plaisait tant à ma grand-mère, quand elle ajouta vivement « Quand je dis nous voir, je veux dire nous voir lire. C'est assommant, quelque chose insignifiante qu'on fasse, de penser que des yeux nous voient. » Par une générosité instinctive et une politesse involontaire, elle taisait le mot prémédité qu'elle avait jugé indispensable à la pleine réalisation de son désir. Et à tout moment, au fond d'elle-même, une vierge timide et suppliante implorait et faisait reculer un soudard fruste et vainqueur. « Oui, c'est probable qu'on nous regarde à cette heure-ci, dans cette campagne fréquentée, » dit ironiquement son ami. « Et puis quoi ? » ajouta-t-elle, en croyant devoir accompagner d'un clignement d'yeux malicieux et tendre ces mots qu'elle récita par bonté, comme un texte qu'elle savait être agréable à Mademoiselle Vinteuil, d'un ton qu'elle s'efforçait de rendre cynique. « Quand même on nous verrait, ce n'en est que meilleur !» Mademoiselle Vinteuil frémit et se leva. Son cœur scrupuleux et sensible ignorait quelle parole devait spontanément venir s'adapter à la scène que ses sens réclamaient. Elle cherchait, le plus loin qu'elle pouvait de sa vraie nature morale, à trouver le langage propre à la fille vicieuse qu'elle désirait d'être, mais les mots qu'elle pensait que celle-ci eût prononcés sincèrement lui paraissaient faux de sa bouche, et le peu qu'elle s'en permettait était dit sur un ton guindé, où ses habitudes de timidité paralysaient ses velléités d'audace, et s'entremêlaient de « Tu n'as pas froid? Tu n'as pas trop chaud? Tu n'as pas envie d'être seule et de lire ?»« Mademoiselle me semble avoir des pensées bien lubriques ce soir, » finit-elle par dire, répétant sans doute une phrase qu'elle avait entendue autrefois dans la bouche de son amie. Dans l'échancrure de son corsage de crêpe, Mademoiselle Vinteuil sentit que son amie piquait un baiser. Elle poussa un petit cri, s'échappa, et elles se poursuivirent en sautant, faisant volter leurs larges manches comme des ailes, et gloussant et piaillant comme des oiseaux amoureux. Puis Mademoiselle Vinteuil finit par tomber sur le canapé recouverte par le corps de son amie. Mais celle-ci tournait le dos à la petite table sur laquelle était placé le portrait de l'ancien professeur de piano. Mademoiselle Vinteuil comprit que son amie ne le verrait pas si elle n'attirait pas sur lui son attention, et elle lui dit, comme si elle venait seulement de le remarquer, « Oh, ce portrait de mon père qui nous regarde, je ne sais pas qui a pu le mettre là, j'ai pourtant dit 20 fois que ce n'était pas sa place. » Je me souvins que c'était les mots que M. Vinteuil avait dit à mon père à propos du morceau de musique. Ce portrait leur servait sans doute habituellement pour des profanations rituelles, car son ami lui répondit par ces paroles qui devaient faire partie de ses réponses liturgiques. « Mais laisse-le donc où il est. Il n'est plus là pour nous embêter. Crois-tu qu'il pleurnicherait, qu'il voudrait te mettre ton manteau? S'il te voyait là, la fenêtre ouverte, le vilain singe !» Mademoiselle Vinteuil répondit par des paroles de doux reproche. « Voyons, voyons !» qui prouvait la bonté de sa nature, non qu'elle fût dictée par l'indignation que cette façon de parler de son père eût pu lui causer. Évidemment, c'était là un sentiment qu'elle s'était habituée, à l'aide de quel sophisme, à faire taire en elle dans ces minutes-là. Mais parce qu'elles étaient comme un frein que, pour ne pas se montrer égoïste, elle mettait elle-même au plaisir que son amie cherchait à lui procurer. Et puis cette modération souriante en répondant à ses blasphèmes, Ce reproche hypocrite et tendre paraissait peut-être à sa nature franche et bonne une forme doucereuse de cette scélératesse qu'elle cherchait à s'assimiler. Mais elle ne put résister à l'attrait du plaisir qu'elle éprouvait à être traitée avec douceur par une personne si implacable envers un mort sans défense. Elle sauta sur les genoux de son amie et lui tendit chastement son front à baiser comme elle aurait pu faire si elle avait été sa fille. Sentant avec délice qu'elles allaient ainsi toutes deux au bout de la cruauté, en ravissant à M. Vinteuil, jusque dans le tombeau, sa paternité. Son ami lui prit la tête entre ses mains et lui déposa un baiser sur le front avec cette docilité que lui rendait facile la grande affection qu'elle avait pour Mademoiselle Vinteuil et le désir de mettre quelque distraction dans la vie si triste maintenant de l'orpheline. « C'est-il ce que j'ai envie de lui faire, à cette vieille horreur ?» dit-elle en prenant le portrait. Et elle murmura à l'oreille de Mademoiselle Vinteuil quelque chose que je ne pus entendre. « Oh, tu n'oserais pas !»«
Je n'oserais pas cracher dessus, sur ça !»
dit l'ami avec une brutalité voulue. Je n'en entendis pas davantage, car Mademoiselle Vinteuil, d'un air las, gauche, affairé, honnête et triste, vint fermer les volets et la fenêtre, mais je savais maintenant, pour toutes les souffrances que pendant sa vie M. Vinteuil avait supportées à cause de sa fille, ce qu'après la mort, il avait reçu d'elle en salaire. Et pourtant j'ai pensé depuis que si M. Vinteuil avait pu assister à cette scène, il n'eût peut-être pas encore perdu sa foi dans le bon cœur de sa fille, et peut-être même n'eût-il pas eu en cela tout à fait tort. Certes, dans les habitudes de Mademoiselle Vinteuil, l'apparence du mal était si entière qu'on aurait eu de la peine à la rencontrer réalisée à ce degré de perfection ailleurs que chez une sadique. C'est à la lumière de la rampe des théâtres du boulevard, plutôt que sous la lampe d'une maison de campagne véritable, qu'on peut voir une fille faire cracher une amie sur le portrait d'un père qui n'a vécu que pour elle. Et il n'y a guère que le sadisme qui donne un fondement dans la vie à l'esthétique du mélodrame. Dans la réalité, en dehors des cas de sadisme, la fille aurait peut-être des manquements aussi cruels que ceux de Mademoiselle Vinteuil envers la mémoire et les volontés de son père mort, mais elle ne les résumerait pas expressément en un acte d'un symbolisme aussi rudimentaire et aussi naïf. Ce que sa conduite aurait de criminel serait plus voilé aux yeux des autres, et même à ses yeux à elle, qui ferait le mal sans se l'avouer. Mais au-delà de l'apparence, dans le cœur de Mademoiselle Vinteuil, le mal, au début du moins, ne fut sans doute pas sans mélange. Une sadique comme elle est l'artiste du mal, ce qu'une créature entièrement mauvaise ne pourrait être, car le mal ne lui serait pas extérieur, il lui semblerait tout naturel, ne se distinguerait même pas d'elle. Et la vertu, la mémoire des morts, la tendresse filiale, comme elle n'en aurait pas le culte, elle ne trouverait pas un plaisir sacrilège à les profaner. Les sadiques de l'espèce de Mademoiselle Vinteuil sont des êtres si purement sentimentaux, si naturellement vertueux, que même le plaisir sensuel leur paraît quelque chose de mauvais, le privilège des méchants. Et quand ils se concèdent à eux-mêmes de s'y livrer un moment, c'est dans la peau des méchants qu'ils tâchent d'entrer et de faire entrer leurs complices, de façon à avoir eu un moment l'illusion de s'être évadé de leur âme scrupuleuse et tendre, dans le monde inhumain du plaisir. Et je comprenais combien elle l'eût désiré en voyant combien il lui était impossible d'y réussir. Au moment où elle se voulait si différente de son père, ce qu'elle me rappelait, c'était les façons de penser, de dire, du vieux professeur de piano. Bien plus que sa photographie, ce qu'elle profanait, ce qu'elle faisait servir à ses plaisirs, mais qui restait entre eux et elle, et l'empêchait de les goûter directement, c'était la ressemblance de son visage, les yeux bleus de sa mère à lui qu'il lui avait transmis comme un bijou de famille, ses gestes d'amabilité qui interposaient entre le vice de Mademoiselle Vinteuil et elle, une phraséologie, une mentalité qui n'était pas faite pour lui, et l'empêchait de le connaître, comme quelque chose de très différent des nombreux devoirs de politesse auxquels elle se consacrait d'habitude. Ce n'est pas le mal qui lui donnait l'idée du plaisir qui lui semblait agréable, c'est le plaisir qui lui semblait malin. Et comme chaque fois qu'elle s'y adonnait, il s'accompagnait pour elle de ses pensées mauvaises, qui le reste du temps étaient absentes de son âme vertueuse, elle finissait par trouver au plaisir quelque chose de diabolique, par l'identifier au mal. Peut-être Mademoiselle Vinteuil sentait-elle que son amie n'était pas foncièrement mauvaise, et qu'elle n'était pas sincère au moment où elle lui tenait ses propos blasphématoires. Du moins avait-elle le plaisir d'embrasser sur son visage des sourires, des regards, fins peut-être, mais analogues dans leur expression vicieuse et basse, à ce qu'aurait eu non un être de bonté et de souffrance, mais un être de cruauté et de plaisir. Elle pouvait s'imaginer un instant qu'elle jouait vraiment les jeux qu'eût joué avec une complice aussi dénaturée, une fille qui aurait ressenti en effet ses sentiments barbares à l'égard de la mémoire de son père. Peut-être n'eût-elle pas pensé que le mal fût un état si rare, si extraordinaire, si dépaysant, où il était si reposant d'émigrer, si elle avait su discerner en elle, comme en tout le monde, cette indifférence aux souffrances qu'on cause et qui, quelques autres noms qu'on lui donne, est la forme terrible et permanente de la cruauté. S'il était assez simple d'aller du côté de mes églises, c'était une autre affaire d'aller du côté de Guermantes, car la promenade était longue et l'on voulait être sûr du temps qu'il ferait. Quand on semblait entrer dans une série de beaux jours, quand Françoise désespérait qu'il ne tombât pas une goutte pour les pauvres récoltes, et ne voyant que de rares nuages blancs nageant à la surface calme et bleue du ciel, s'écriait en gémissant « Ne dirait-on pas qu'on voit ni plus ni moins des chiens de mer qui jouent en montrant là-haut leurs museaux ? Ah, ils pensent bien à faire pleuvoir pour les pauvres laboureurs !» Et puis quand les blés seront poussés, alors la pluie se mettra à tomber tout à petit patapon, sans discontinuer, sans plus savoir sur quoi elle tombe, que si c'était sur la mer. Quand mon père avait reçu invariablement les mêmes réponses favorables du jardinier et du baromètre, alors on disait au dîner, demain, s'il fait le même temps, nous irons du côté de Guermantes. On partait tout de suite après déjeuner par la petite porte du jardin, et on tombait dans la rue des Perchants, étroite et formant un angle aigu, rempli de graminées au milieu desquelles deux ou trois guêpes passaient la journée à herboriser. Aussi bizarre que son nom, d'où me semblaient dériver ses particularités curieuses et sa personnalité revêche, et qu'on chercherait en vain dans le Combré d'aujourd'hui où sur son tracé ancien s'élève l'école. Mais ma rêverie, semblable à ces architectes élèves de Viollet-le-Duc qui, croyant retrouver sous un jubé Renaissance et un autel du XVIIe siècle les traces d'un cœur roman, remettent tout l'édifice dans l'état où il devait être au VIIe siècle, ne laisse pas une pierre du bâtiment nouveau, reperce et restitue la rue des Perchants. Elle a d'ailleurs, pour ses reconstitutions, des données plus précises que n'en ont généralement les restaurateurs. Quelques images conservées dans ma mémoire, les dernières peut-être qui existent encore actuellement, et destinées à être bientôt anéanties, de ce qu'était le Combré du temps de mon enfance. Et parce que c'est lui-même qui les a tracées en moi avant de disparaître, émouvante, si on peut comparer un obscur portrait à ces effigies glorieuses dont ma grand-mère aimait à me donner des reproductions, comme ces gravures anciennes de la Seine ou ce tableau de Gentile Bellini, dans lesquels l'on voit, en un état qui n'existe plus aujourd'hui, le chef-d'œuvre de Vinci et le portail de Saint-Marc. On passait rue de l'Oiseau, devant la vieille hôtellerie de l'Oiseau Fléché, dans la grande cour de laquelle entrèrent quelquefois au XVIIe siècle les carrosses des duchesses de Montpensier, de Guermantes et de Montmorency, quand elles avaient à venir à Combré pour quelque contestation avec leurs fermiers pour une question d'hommage. On gagnait le mail entre les arbres duquel apparaissait le clocher de Saint-Hilaire. et j'aurais voulu pouvoir m'asseoir là et rester toute la journée à lire en écoutant les cloches, car il faisait si beau et si tranquille que quand sonnait l'heure, on aurait dit non qu'elle rompait le calme du jour, mais qu'elle le débarrassait de ce qu'il contenait, et que le clocher, avec l'exactitude indolente et soigneuse d'une personne qui n'a rien d'autre à faire, venait seulement pour exprimer et laisser tomber les quelques gouttes d'or que la chaleur y avait lentement et naturellement amassées, de presser, au moment voulu, la plénitude du silence. Le plus grand charme du côté de Guermantes, c'est qu'on y avait presque tout le temps à côté de soi le cours de la Vivonne. On l'a traversé une première fois, 10 minutes après avoir quitté la maison, sur une passerelle dite le Pont Vieux. Dès le lendemain de notre arrivée, le jour de Pâques, après le sermon, s'il faisait beau temps, je courais jusque-là, voir dans ce désordre d'un matin de grande fête où quelques préparatifs somptueux font paraître plus sordides les ustensiles de ménage qui traînent encore, la rivière qui se promenait déjà en bleu ciel, entre les terres encore noires et nues, accompagnée seulement d'une bande de coucous arrivés trop tôt et de primevères en avance. Cependant que ça et là, une violette au bec bleu laissait fléchir sa tige sous le poids de la goutte d'odeur qu'elle tenait dans son cornet. Le Pont Vieux débouchait dans un sentier de halage qui, à cet endroit, se tapissait l'été du feuillage bleu d'un noisetier, sous lequel un pêcheur en chapeau de paille avait pris racine. À Combray, où je savais quelle individualité de maréchal ferrant ou de garçon épicier était dissimulée sous l'uniforme du Suisse ou le surplus de l'enfant de cœur, ce pêcheur est la seule personne dont je n'ai jamais découvert l'identité. Il devait connaître mes parents, car il soulevait son chapeau quand nous passions. Je voulais alors demander son nom, mais on me faisait signe de me taire pour ne pas effrayer le poisson. Nous nous engagions dans le sentier de halage qui dominait le courant d'un talus de plusieurs pieds. De l'autre côté, la rive était basse, étendue en vaste pré jusqu'au village et jusqu'à la gare qui était distante. Ils étaient semés des restes à demi enfouis dans l'herbe du château des anciens comtes de Combray, qui au Moyen-Âge avait de ce côté le cours de la Vivonne comme défense contre les attaques des sires de Guermantes et des abbés de Martinville. Ce n'était plus que quelques fragments de tours, potions la prairie, à peine apparents, quelques créneaux d'où jadis l'arbalétrier lançait des pierres, d'où le guetteur surveillait Neufpont, Clairefontaine, Martinville-le-Sec, Bayeux-l'Exempt, toute terre vassale de Guermantes entre lesquelles Combray était enclavée, aujourd'hui au ras de l'herbe, dominée par les enfants de l'école des frères qui venaient là apprendre leurs leçons ou jouer aux récréations. Passé presque descendu dans la terre, couché au bord de l'eau comme un promeneur qui prend le frais, mais me donnant fort à songer, me faisant ajouter dans le nom de Combray à la petite ville d'aujourd'hui, une cité très différente, retenant mes pensées par son visage incompréhensible et d'autrefois qu'il cachait à demi sous les boutons d'or. Ils étaient fort nombreux à cet endroit qu'ils avaient choisi pour leur jeu sur l'herbe, isolés, par couple, par troupe, jaunes comme un jaune d'œuf, brillant d'autant plus, me semblait-il, que ne pouvant dériver vers aucune velléité de dégustation le plaisir que leur vue me causait, je l'accumulais dans leur surface dorée, jusqu'à ce qu'il devint assez puissant pour produire de l'inutile beauté. Et cela dès ma plus petite enfance, quand du sentier de halage, je tendais les bras vers eux, sans pouvoir épeler complètement leur joli nom de prince de conte de fées français, venu peut-être il y a bien des siècles d'Asie, mais apatrié pour toujours au village, content du modeste horizon, aimant le soleil et le bord de l'eau, fidèle à la petite vue de la gare, gardant encore pourtant, comme certaines de nos vieilles toiles peintes, dans leur simplicité populaire, un poétique éclat d'Orient. Je m'amusais à regarder les carafes que les gamins mettaient dans la Vivonne pour prendre les petits poissons, et qui, remplies par la rivière, où elles sont à leur tour encloses, à la fois contenant au flanc transparent comme une eau durcie, et contenu plongé dans un plus grand contenant de cristal liquide et courant, évoquer l'image de la fraîcheur d'une façon plus délicieuse et plus irritante qu'elles n'eussent fait sur une table servie. En ne la montrant qu'en fuite dans cette allitération perpétuelle entre l'eau sans consistance où les mains ne pouvaient la capter et le verre sans fluidité où le palais ne pourrait en jouir. Je me promettais de venir là plus tard avec des lignes. J'obtenais qu'on tirât un peu de pain des provisions du goûter. J'en jetais dans la vivonne les boulettes qui semblaient suffire pour y provoquer un phénomène de sursaturation, car l'eau se solidifiait aussitôt autour d'elle en grappes ovoïdes de tétards inadiciés, qu'elle tenait sans doute jusque-là en dissolution, invisible, tout près d'être en voie de cristallisation. Bientôt le cours de la vivonne s'obstrue de plantes d'eau. Il y en a d'abord d'isolées, comme tel nénuphar à qui le courant au travers duquel il était placé d'une façon malheureuse laissait si peu de repos que, comme un bac actionné mécaniquement, il n'abordait une rive que pour retourner à celle d'où il était venu, refaisant éternellement la double traversée. Poussé vers la rive, son pédoncule se dépliait, s'allongeait, filait, atteignait l'extrême limite de sa tension, jusqu'au bord où le courant le reprenait. Le vert cordage se repliait sur lui-même et ramenait la pauvre plante à ce qu'on peut d'autant mieux appeler son point de départ, qu'elle n'y restait pas une seconde, sans en repartir par une répétition de la même manœuvre. Je la retrouvais de promenade en promenade, toujours dans la même situation, faisant penser à certains neurasthéniques, au nombre desquels mon grand-père comptait ma tante Léonie, qui nous offre sans changement au cours des années le spectacle des habitudes bizarres qu'il se croit chaque fois à la veille de secouer et qu'il garde toujours. Pris dans l'engrenage de leur malaise et de leur manie, les efforts dans lesquels ils se débattent inutilement pour en sortir ne font qu'assurer le fonctionnement et faire jouer le déclic de leur diététique étrange, inéluctable et funeste. Tel était ce nénuphar, pareil aussi à quelqu'un de ces malheureux dont le tourment singulier qui se répète indéfiniment durant l'éternité excitait la curiosité de Dorde, et dont il se serait fait raconter plus longuement les particularités et la cause par le supplicié lui-même, si Virgile, s'éloignant à grands pas, ne l'avait forcé à le rattraper au plus vite, comme moi mes parents. Mais plus loin, le courant se ralentit. Il traverse une propriété dont l'accès était ouvert au public par celui à qui elle appartenait et qui s'y était complu à des travaux d'horticulture aquatique, faisant fleurir dans les petits étangs que forme la vivonne de véritables jardins de nymphéas. Comme les rives étaient à cet endroit très boisées, les grandes ombres des arbres donnaient à l'eau un fond qui était habituellement d'un vert sombre, mais que parfois, quand nous rentrions par certains soirs assérénés d'après-midi orageux, j'ai vu d'un bleu clair et cru, tirant sur le violet, d'apparence cloisonnée et de goût japonais. Ça et là, à la surface, rougissait comme une fraise une fleur de nymphéa au cœur écarlate, blanc sur les bords. Plus loin, les fleurs plus nombreuses étaient plus pâles, moins lisses, plus grenues, plus plissées et disposées par le hasard en enroulement si gracieux qu'on croyait voir flotter à la dérive, comme après l'effeuillement mélancolique d'une fête galante, des roses mousseuses en guirlandes dénouées. Ailleurs, un coin semblait réservé aux espèces communes qui montraient le blanc et rose propre de la julienne, lavé comme de la porcelaine avec un soin domestique, tandis qu'un peu plus loin, pressées les unes contre les autres en une véritable plate-bande flottante, on eût dit des pensées des jardins qui étaient venues poser comme des papillons, leurs ailes bleuâtres et glacées sur l'obliquité transparente de ce parterre d'eau, de ce parterre céleste aussi, car il donnait aux fleurs un sol d'une couleur plus précieuse, plus émouvante que la couleur des fleurs elles-mêmes. Et soit que pendant l'après-midi il fît étinceler sous les nymphéas le kaléidoscope d'un bonheur attentif, silencieux et mobile, ou qu'il s'emplit vers le soir comme quelque port lointain du rose et de la rêverie du couchant, changeant sans cesse pour rester toujours en accord autour des corolles de teintes plus fixes, avec ce qu'il y a de plus profond, de plus fugitif, de plus mystérieux, avec ce qu'il y a d'infini. Dans l'heure, il semblait les avoir fait fleurir en plein ciel. Au sortir de ce parc, la vivonne redevient courante. Que de fois j'ai vu, j'ai désiré imiter, quand je serai libre de vivre à ma guise, un rameur qui, ayant lâché l'aviron, s'était couché à plat sur le dos, la tête en bas, au fond de sa barque, et la laissant flotter à la dérive, ne pouvant voir que le ciel qui filait lentement au-dessus de lui, portait sur son visage l'avant-goût du bonheur et de la paix. Nous nous asseyons entre les iris au bord de l'eau. Dans le ciel férié flânait longuement un nuage oisif. Par moments, oppressé par l'ennui, une carpe se dressait hors de l'eau dans une aspiration anxieuse. C'était l'heure du goûter. Avant de repartir, nous restions longtemps à manger des fruits, du pain et du chocolat sur l'herbe, où parvenaient jusqu'à nous, horizontaux, affaiblis mais denses et métalliques encore, des sons de la cloche de Saint-Hilaire, qui ne s'était pas mélangée à l'air qu'il traversait depuis si longtemps, et côtelés par la palpitation successive de toutes leurs lignes sonores, vibraient en rasant les fleurs à nos pieds. Parfois, au bord de l'eau, entouré de bois, nous rencontrions une maison dite de plaisance, isolée, perdue, qui ne voyait rien du monde que la rivière qui baignait ses pieds. Une jeune femme, dont le visage pensif et les voiles élégants n'étaient pas de ce pays, et qui sans doute était venue, selon l'expression populaire, s'enterrer là, goûter le plaisir amer de sentir que son nom, le nom surtout de celui dont elle n'avait pu garder le cœur, y était inconnu, s'encadrait dans la fenêtre qui ne lui laissait pas regarder plus loin que la barque amarrée près de la porte. Elle levait distraitement les yeux en entendant derrière les arbres de la rive la voix des passants dont, avant qu'elle eût aperçu leur visage, elle pouvait être certaine que jamais ils n'avaient connu ni ne connaîtraient l'infidèle, que rien dans leur passé ne gardait sa marque, que rien dans leur avenir n'aurait l'occasion de la recevoir. On sentait que, dans son renoncement, elle avait volontairement quitté des lieux où elle aurait pu du moins apercevoir celui qu'elle aimait, pour ceci qui ne l'avait jamais vu. Et je la regardais revenant de quelque promenade sur un chemin où elle savait qu'il ne passerait pas, ôtée de ses mains résignées, de longs gants d'une grâce inutile. Jamais dans la promenade du côté de Guermantes nous ne pûmes remonter jusqu'aux sources de la Vivonne, auxquelles j'avais souvent pensé, et qui avaient pour moi une existence si abstraite, si idéale, que j'avais été aussi surpris quand on m'avait dit qu'elle se trouvait dans le département, à une certaine distance kilométrique de Combray, que le jour où j'avais appris qu'il y avait un autre point précis de la terre où s'ouvrait, dans l'Antiquité, l'entrée des enfers. Jamais non plus nous ne pûmes pousser jusqu'au terme que Justin souhaitait atteindre, jusqu'à Guermantes. Je savais que là résidaient des châtelains, le duc et la duchesse de Guermantes. Je savais qu'ils étaient des personnages réels et actuellement existants, mais chaque fois que je pensais à eux, je me les représentais tantôt en tapisserie, comme était la comtesse de Guermantes dans le couronnement d'Esther de notre église, tantôt de nuances changeantes, comme était Gilbert le Mauvais dans le vitrail où il passait du vert chou au bleu prune, selon que j'étais encore à prendre de l'eau bénite ou que j'arrivais à nos chaises. Tantôt tout à fait impalpable, comme l'image de Geneviève de Brabant, ancêtre de la famille de Guermantes, que la lanterne magique promenait sur les rideaux de ma chambre ou faisait monter au plafond. Enfin, toujours enveloppé du mystère des temps mérovingiens et baignant comme dans un coucher de soleil dans la lumière orangée qui émane de cette syllabe « hante ». Mais si malgré cela, ils étaient pour moi, en tant que duc et duchesse, des êtres réels, bien qu'étranges. En revanche, leur personne ducale se distendait démesurément, s'immatérialisait, pour pouvoir contenir en elle ce Guermantes dont ils étaient duc et duchesse, tout ce côté de Guermantes ensoleillé, le cours de la Vivonne, ses nymphéas et ses grands arbres, et tant de beaux après-midi. Et je savais qu'il ne portait pas seulement le titre de duc et de duchesse de Guermantes, mais que depuis le XIVe siècle, où, après avoir inutilement essayé de vaincre leurs anciens seigneurs, ils s'étaient alliés à eux par des mariages, ils étaient comtes de Combray, les premiers des citoyens de Combray par conséquent, et pourtant les seuls qui n'y habitassent pas. Comtes de Combray, possédant Combray au milieu de leur nom, de leur personne, et sans doute ayant effectivement en eux cette étrange et pieuse tristesse qui était spéciale à Combray. Propriétaires de la ville, mais non d'une maison particulière, demeurant sans doute dehors, dans la rue, entre ciel et terre, comme ce Gilbert de Guermantes dont je ne voyais aux vitraux de l'abside de Saint-Hilaire que l'envers de la gloire, si je levais la tête quand j'allais chercher du sel chez Camus. Puis il arriva que sur le côté de Guermantes, je passais parfois devant de petits enclos humides où montaient des grappes de fleurs sombres. Je m'arrêtais, croyant acquérir une notion précieuse, car il me semblait avoir sous les yeux un fragment de cette région fluviatile que je désirais tant connaître depuis que je l'avais vue décrite par un de mes écrivains préférés. Et ce fut avec elle, avec son sol imaginaire traversé de cours d'eau bouillonnants, que Guermantes, changeant d'aspect dans ma pensée, s'identifia, quand j'eus entendu le docteur Percebier nous parler des fleurs et des belles eaux vives qu'il y avait dans le parc du château. Je rêvais que Madame de Guermantes m'y faisait venir, éprise pour moi d'un soudain caprice. Tout le jour, elle y pêchait la truite avec moi, et le soir, me tenant par la main, en passant devant les petits jardins de ses vassaux, elle me montrait, le long des murs bas, les fleurs qui y appuient leurs quenouilles violettes et rouges, et m'apprenait leur nom. Elle me faisait lui dire le sujet des poèmes que j'avais l'intention de composer. Et ses rêves m'avertissaient que, puisque je voulais un jour être un écrivain, il était temps de savoir ce que je comptais écrire. Mais dès que je me le demandais, tâchant de trouver un sujet où je pusse faire tenir une signification philosophique infinie, mon esprit s'arrêtait de fonctionner. Je ne voyais plus que le vide en face de mon attention. Je sentais que je n'avais pas de génie, ou peut-être une maladie cérébrale l'empêchait de naître. Parfois, je comptais sur mon père pour arranger cela. Il était si puissant, si en faveur auprès des gens en place, qu'il arrivait à nous faire transgresser les lois que Françoise m'avait appris à considérer comme plus inéluctables que celles de la vie et de la mort, à faire retarder d'un an pour notre maison, seule de tout le quartier, les travaux de ravalement, à obtenir du ministre, pour le fils de Madame Sazerat qui voulait aller aux eaux, l'autorisation qu'il passa le baccalauréat 2 mois d'avance dans la série des candidats dont le nom commençait par un A, au lieu d'attendre le tour des S. Si j'étais tombé gravement malade, si j'avais été capturé par des brigands, persuadé que mon père avait trop d'intelligence avec les puissances suprêmes, de trop irrésistibles lettres de recommandation auprès du bon Dieu, pour que ma maladie ou ma captivité puissent être autre chose que de vains simulacres sans danger pour moi, j'aurais attendu avec calme l'heure inévitable du retour à la bonne réalité, l'heure de la délivrance ou de la guérison. Peut-être cette absence de génie, ce trou noir qui se creusait dans mon esprit quand je cherchais le sujet de mes écrits futurs, n'était-il aussi qu'une illusion sans consistance, et cesserait-elle par l'intervention de mon père, qui avait dû convenir avec le gouvernement et avec la Providence, que je serais le premier écrivain de l'époque. Mais d'autres fois, tandis que mes parents s'impatientaient de me voir rester en arrière et de ne pas les suivre, ma vie actuelle, au lieu de me sembler une création artificielle de mon père et qu'il pouvait modifier à son gré, m'apparaissait au contraire comme comprise dans une réalité qui n'était pas faite pour moi, contre laquelle il n'y avait pas de recours, au cœur de laquelle je n'avais pas d'allié, qui ne cachait rien au-delà d'elle-même. Il me semblait alors que j'existais de la même façon que les autres hommes, que je vieillirais, que je mourrais comme eux, et que parmi eux j'étais seulement du nombre de ceux qui n'ont pas de disposition pour écrire. Aussi découragé, je renonçai à jamais à la littérature, malgré les encouragements que m'avait donné Bloch. Ce sentiment intime, immédiat, que j'avais du néant de ma pensée prévalait contre toutes les paroles flatteuses qu'on pouvait me prodiguer, comme chez un méchant dont chacun vante les bonnes actions, les remords de sa conscience. Un jour, ma mère me dit, « Puisque tu parles toujours de Madame de Guermantes, comme le docteur Percepied l'a très bien soignée il y a 4 ans, elle doit venir à Combray pour assister au mariage de sa fille. Tu pourras l'apercevoir à la cérémonie. » C'était du reste par le docteur Percepied que j'avais le plus entendu parler de Madame de Guermantes, et il nous avait même montré le numéro d'une revue illustrée où elle était représentée dans le costume qu'elle portait à un bal travesti chez la princesse de Léon. Tout d'un coup, pendant la messe de mariage, un mouvement que fit le Suisse en se déplaçant me permit de voir, assise dans une chapelle, une dame blonde avec un grand nez, des yeux bleus et perçants, une cravate bouffante en soie mauve, lisse, neuve et brillante, et un petit bouton au coin du nez. Et parce que dans la surface de son visage rouge, comme si elle eût eu très chaud, je distinguais, dilué et à peine perceptible, des parcelles d'analogie avec le portrait qu'on m'avait montré, parce que surtout les traits particuliers que je relevais en elle, si j'essayais de les énoncer, se formulaient précisément dans les mêmes termes. Un grand nez, des yeux bleus, dont s'était servi le docteur Percepied quand il avait décrit devant moi la duchesse de Guermantes. Je me dis, cette dame ressemble à Madame de Guermantes. Or, la chapelle où elle suivait la messe était celle de Gilbert le Mauvais, sous les plates-tombes de laquelle, dorées et distendues comme des alvéoles de miel, reposaient les anciens comtes de Brabant, et que je me rappelais être, à ce qu'on m'avait dit, réservé à la famille de Guermantes quand quelqu'un de ses membres venait pour une cérémonie à Combray. Il ne pouvait vraisemblablement y avoir qu'une seule femme ressemblant au portrait de Madame de Guermantes qui fut ce jour-là, jour où elle devait justement venir, dans cette chapelle. C'était elle. Ma déception était grande. Elle provenait de ce que je n'avais jamais pris garde quand je pensais à Madame de Guermantes, que je me la représentais avec les couleurs d'une tapisserie ou d'un vitrail, dans un autre siècle, d'une autre matière que le reste des personnes vivantes. Jamais je ne m'étais avisé qu'elle pouvait avoir une figure rouge, une cravate mauve comme Madame Sazra, et l'ovale de ses joues me fit tellement souvenir de personnes que j'avais vues à la maison, que le soupçon m'effleura, pour se dissiper d'ailleurs aussitôt après, que cette dame, en son principe générateur, en toutes ses molécules, n'était peut-être pas substantiellement la duchesse de Guermantes, mais que son corps, ignorant du nom qu'on lui appliquait, appartenait à un certain type féminin, qui comptait aussi des femmes de médecins et de commerçants. C'est cela, ce n'est que cela, Madame de Guermantes, disait la mine attentive et étonnée avec laquelle je contemplais cette image, qui naturellement n'avait aucun rapport avec celle qui, sous le même nom de Madame de Guermantes, était apparue tant de fois dans mes songes, puisque elle n'avait pas été comme les autres arbitrairement formée par moi, mais qu'elle m'avait sauté aux yeux pour la première fois il y a un moment seulement dans l'église, qui n'était pas de la même nature, n'était pas colorable à volonté comme elle qui se laissait imbiber de la teinte orangée d'une syllabe, mais était si réelle que tout, jusqu'à ce petit bouton qui s'enflammait au coin du nez, certifiait son assujettissement aux lois de la vie, comme dans une apothéose de théâtre, un plissement de la robe de la fée, un tremblement de son petit doigt, dénonce la présence matérielle d'une actrice vivante, là où nous étions incertains si nous n'avions pas, devant les yeux, une simple projection lumineuse. Mais en même temps, sur cette image que le nez proéminent, les yeux perçants épinglés dans ma vision, peut-être parce que c'était eux qui l'avaient d'abord atteinte, qui y avaient fait la première encoche au moment où je n'avais pas encore le temps de songer que la femme qui apparaissait devant moi pouvait être Madame de Guermantes. Sur cette image toute récente, inchangeable, j'essayais d'appliquer l'idée « c'est Madame de Guermantes », sans parvenir qu'à la faire manœuvrer en face de l'image comme deux disques séparés par un intervalle. Mais cette Madame de Guermantes, à laquelle j'avais si souvent rêvé, maintenant que je voyais qu'elle existait effectivement en dehors de moi, en prit plus de puissance encore sur mon imagination, qui, un moment paralysée au contact d'une réalité si différente de ce qu'elle attendait, se mit à réagir et à me dire « Glorieux dès avant Charlemagne, les Guermantes avaient le droit de vie et de mort sur leurs vassaux. La duchesse de Guermantes descend de Geneviève de Brabant. Elle ne connaît, ni ne consentirait à connaître, aucune des personnes qui sont ici. » Et ô merveilleuse indépendance des regards humains retenus au visage par une corde si lâche, si longue, si extensible qu'ils peuvent se promener seuls loin de lui, pendant que Madame de Guermantes était assise dans la chapelle au-dessus des tombes de ses morts, ses regards flânaient çà et là, montaient le long des piliers, s'arrêtaient même sur moi, comme un rayon de soleil errant dans la nef, mais un rayon de soleil qui, au moment où je reçus sa caresse, me sembla conscient. Quant à Madame de Guermantes elle-même, comme elle restait immobile, assise comme une mère qui semble ne pas voir les audaces espiègles et les entreprises indiscrètes de ses enfants, qui jouent et interpellent des personnes qu'elle ne connaît pas, il me fut impossible de savoir si elle approuvait ou blâmait, dans le désœuvrement de son âme, le vagabondage de ses regards. Je trouvais important qu'elle ne partît pas avant que j'eusse pu la regarder suffisamment, car je me rappelais que depuis des années je considérais sa vue comme éminemment désirable. Et je ne détachais pas mes yeux d'elle, comme si chacun de mes regards eût pu matériellement emporter et mettre en réserve en moi le souvenir du nez proéminent, des joues rouges, de toutes ces particularités qui me semblaient autant de renseignements précieux, authentiques et singuliers sur son visage. Maintenant que me le faisaient trouver beau toutes les pensées que j'y rapportais, et peut-être surtout forme de l'instinct de conservation des meilleures parties de nous-mêmes ce désir qu'on a toujours de ne pas avoir été déçu, la replaçant, puisque c'était une seule personne, qu'elle et cette duchesse de Guermantes que j'avais évoquée jusque-là, hors du reste de l'humanité dans laquelle la vue pure et simple de son corps me l'avait fait un instant confondre, je m'irritais en entendant dire autour de moi « Elle est mieux que Madame Sazerat, que Mademoiselle Vinteuil », comme si elle leur eût été comparable. Et mes regards s'arrêtant à ses cheveux blonds, à ses yeux bleus, à la tache de son cou, et omettant les traits qui eussent pu me rappeler d'autres visages, je m'écriais devant ce croquis volontairement incomplet « Qu'elle est belle, quelle noblesse, comme c'est bien une fière Guermantes, la descendante de Geneviève de Brabant que j'ai devant moi !» Et l'attention avec laquelle j'éclairais son visage l'isolait tellement qu'aujourd'hui, si je repense à cette cérémonie, il m'est impossible de revoir une seule des personnes qui y assistaient, sauf elle et le Suisse qui répondit affirmativement quand je lui demandais si cette dame était bien Madame de Guermantes. Mais elle, je la revois surtout au moment du défilé dans la sacristie, qu'éclairait le soleil intermittent et chaud d'un jour de vent et d'orage, et dans laquelle Madame de Guermantes se trouvait au milieu de tous ces gens de Combray dont elle ne savait même pas les noms, mais dont l'infériorité proclamait trop sa suprématie pour qu'elle ne ressentît pas pour eux une sincère bienveillance, et auquel du reste elle espérait imposer davantage encore à force de bonne grâce et de simplicité. Aussi, ne pouvant émettre ses regards volontaires, chargés d'une signification précise qu'on adresse à quelqu'un qu'on connaît, mais seulement laisser ses pensées distraites s'échapper incessamment devant elle, en un flot de lumière bleue qu'elle ne pouvait contenir, elle ne voulait pas qu'il pût gêner, paraître dédaigner ces petites gens qu'il rencontrait au passage, qu'il atteignait à tout moment. Je revois encore, au-dessus de sa cravate mauve soyeuse et gonflée, le doux étonnement de ses yeux auquel elle avait ajouté sans oser le destiner à personne, mais pour que tous pussent en prendre leur part, un sourire un peu timide de suzeraine qui a l'air de s'excuser auprès de ses vassaux et de les aimer. Ce sourire tomba sur moi qui ne la quittait pas des yeux. Alors, me rappelant ce regard qu'elle avait laissé s'arrêter sur moi pendant la messe, bleu comme un rayon de soleil qui aurait traversé le vitrail de Gilbert le Mauvais, je me dis, mais sans doute elle fait attention à moi. Je crus que je lui plaisais. Qu'elle penserait encore à moi quand elle aurait quitté l'église, qu'à cause de moi elle serait peut-être triste, le soir à Guermantes. Et aussitôt je l'aimais, car s'il peut quelquefois suffire pour que nous aimions une femme qu'elle nous regarde avec mépris, comme j'avais cru qu'avait fait Mademoiselle Swann, et que nous pensions qu'elle ne pourra jamais nous appartenir, quelquefois aussi il peut suffire qu'elle nous regarde avec bonté, comme faisait Madame de Guermantes, et que nous pensions qu'elle pourra nous appartenir. Ses yeux bleuissaient comme une pervenche impossible à cueillir, et que pourtant elle m'eût dédié, et le soleil menacé par un nuage, mais dardant encore de toute sa force sur la place et dans la sacristie, donner une carnation de géranium au tapis rouge qu'on y avait étendu par terre pour la solennité, et sur lesquels s'avançait en souriant Madame de Guermantes, et ajoutait à leur lainage un velouté rose, un épiderme de lumière, cette sorte de tendresse, de sérieuse douceur dans la pompe et dans la joie, qui caractérise certaines pages de Lohengrin, certaines peintures de Carpaccio, et qui font comprendre que Baudelaire ait pu appliquer au son de la trompette l'épithète de délicieux. Combien depuis ce jour, dans mes promenades du côté de Guermantes, il me parut plus affligeant encore qu'auparavant de n'avoir pas de disposition pour les lettres et de devoir renoncer à être jamais un écrivain célèbre. Les regrets que j'en éprouvais, tandis que je restais seul à rêver un peu à l'écart, me faisaient tant souffrir que, pour ne plus les ressentir, de lui-même par une sorte d'inhibition devant la douleur, mon esprit s'arrêtait entièrement de penser au vers, au roman, à un avenir poétique sur lequel mon manque de talent m'interdisait de compter. Alors, bien en dehors de toutes ces préoccupations littéraires et ne s'y rattachant en rien, tout d'un coup, un toit, un reflet de soleil sur une pierre, l'odeur d'un chemin, me faisaient arrêter par un plaisir particulier qu'ils me donnaient, et aussi parce qu'ils avaient l'air de cacher, au-delà de ce que je voyais, quelque chose qu'ils m'invitaient à venir prendre, et que malgré mes efforts je n'arrivais pas à découvrir. Comme je sentais que cela se trouvait en eux, je restais là, immobile, à regarder, à respirer, attaché d'aller avec ma pensée au-delà de l'image ou de l'odeur. Et s'il me fallait rattraper mon grand-père, poursuivre ma route, je cherchais à les retrouver en fermant les yeux. Je m'attachais à me rappeler exactement la ligne du toit, la nuance de la pierre, qui, sans que je puisse comprendre pourquoi, m'avait semblé pleine, prête à s'entr'ouvrir, à me livrer ce dont elle n'était qu'un couvercle. Certes, ce n'étaient pas des impressions de ce genre qui pouvaient me rendre l'espérance que j'avais perdue de pouvoir être un jour écrivain et poète, car elles étaient toujours liées à un objet particulier dépourvu de valeur intellectuelle et ne se rapportant à aucune vérité abstraite. Mais du moins, elles me donnaient un plaisir irraisonné, l'illusion d'une sorte de fécondité et par là me distrayaient de l'ennui, du sentiment de mon impuissance, que j'avais éprouvé chaque fois que j'avais cherché un sujet philosophique pour une grande œuvre littéraire. Mais le devoir de conscience était si ardu que m'imposaient ces impressions de forme, de parfum ou de couleur, de tâcher d'apercevoir ce qui se cachait derrière elles, que je ne tardais pas à me chercher à moi-même des excuses qui me permissent de me dérober à ces efforts et de m'épargner cette fatigue. Par bonheur, mes parents m'appelaient. Je sentais que je n'avais pas présentement la tranquillité nécessaire pour poursuivre utilement ma recherche, et qu'il valait mieux y plus penser jusqu'à ce que je fusse rentré, et ne pas me fatiguer d'avance sans résultat. Alors je ne m'occupais plus de cette chose inconnue qui s'enveloppait d'une forme ou d'un parfum, bien tranquille puisque je la ramenais à la maison, protégée par le revêtement d'images sous lesquelles je la trouverais vivante, comme des poissons que les jours où on m'avait laissé aller à la pêche, je rapportais dans mon panier, couvert par une couche d'herbe qui préservait leur fraîcheur. Une fois à la maison, je songeais à autre chose, et ainsi s'entassaient dans mon esprit, comme dans ma chambre, les fleurs que j'avais cueillies dans mes promenades ou les objets qu'on m'avait donnés, une pierre où jouait un reflet, un toit, un son de cloche, une odeur de feuilles, bien des images différentes sous lesquelles il y a longtemps qu'est morte la réalité pressentie, que je n'ai pas eu assez de volonté pour arriver à découvrir. Une fois pourtant, où notre promenade s'étant prolongée fort au-delà de sa durée habituelle, nous avions été bien heureux de rencontrer à mi-chemin du retour, comme l'après-midi finissait, le docteur Percepied qui passait en voiture à bride abattue, nous avait reconnus et fait monter avec lui. J'eus une impression de ce genre et ne l'abandonnai pas sans un peu l'approfondir. On m'avait fait monter près du cocher. Nous allions comme le vent parce que le docteur avait encore, avant de rentrer à Combray, à s'arrêter à Martinville-le-Sec chez un malade à la porte duquel il avait été convenu que nous l'attendrions. Au tournant d'un chemin, j'éprouvai tout à coup ce plaisir spécial qui ne ressemblait à aucun autre, à apercevoir les deux clochers de Martinville sur lesquels donnait le soleil couchant, et que le mouvement de notre voiture et les lacets du chemin avaient l'air de faire changer de place, puis celui de Vieux-Vic, qui séparait d'eux par une colline et une vallée, et situé sur un plateau plus élevé dans le lointain, semblait pourtant tout voisin d'eux. En constatant, en notant la forme de leurs flèches, le déplacement de leurs lignes, l'ensoleillement de leur surface, je sentais que je n'allais pas au bout de mon impression, que quelque chose était derrière ce mouvement, derrière cette clarté, quelque chose qu'il semblait contenir et dérober à la fois. Les clochers paraissaient si éloignés, et nous avions l'air de si peu nous rapprocher d'eux, que je fus étonné quand, quelques instants après, nous nous arrêtâmes devant l'église de Martinville. Je ne savais pas la raison du plaisir que j'avais eu à les apercevoir à l'horizon, et l'obligation de chercher à découvrir cette raison me semblait bien pénible. J'avais envie de garder en réserve dans ma tête ces lignes remuantes au soleil et de n'y plus penser maintenant. Et il est probable que si je l'avais fait, les deux clochers seraient allés à jamais rejoindre tant d'arbres, de toits, de parfums, de sons que j'avais distingués des autres à cause de ce plaisir obscur qu'ils m'avaient procuré et que je n'ai jamais approfondi. Je descendis causer avec mes parents en attendant le docteur. Puis nous repartîmes, je repris ma place sur le siège, je tournai la tête pour voir encore les clochers qu'un peu plus tard j'aperçus une dernière fois au tournant d'un chemin. Le cocher, qui ne semblait pas disposé à causer, ayant à peine répondu à mes propos, force me fut, faute d'autres compagnies, de me rabattre sur celle de moi-même et d'essayer de me rappeler mes clochers. Bientôt, leurs lignes et leur surface ensoleillée, comme si elles avaient été une sorte d'écorce, se déchirèrent. Un peu de ce qui m'était caché en elles m'apparut. J'eus une pensée qui n'existait pas pour moi l'instant avant, qui se formula en mots dans ma tête, et le plaisir que m'avait fait tout à l'heure éprouver leur vue s'en trouva tellement accru que, pris d'une sorte d'ivresse, je ne pus pas penser à autre chose. À ce moment, et comme nous étions déjà loin de Martinville, en tournant la tête, je les aperçus de nouveau, tout noir cette fois, car le soleil était déjà couché. Par moments, les tournants du chemin me les dérobaient, puis ils se montrèrent une dernière fois, et enfin, je ne les vis plus. Sans me dire que ce qui était caché derrière les clochers de Martinville devait être quelque chose d'analogue à une jolie phrase, puisque c'était sous la forme de mots qui me faisaient plaisir que cela m'était apparu, demandant un crayon et du papier au docteur, je composai, malgré les chaos de la voiture, pour soulager ma conscience et obéir à mon enthousiasme, le petit morceau suivant que j'ai retrouvé depuis et auquel je n'ai eu à faire subir que peu de changements. Seul, s'élevant au niveau de la plaine et comme perdu en rase campagne, montaient vers le ciel les deux clochers de Martinville. Bientôt nous en vîmes trois, venant se placer en face d'eux par une volte hardie, un clocher retardataire, celui de Vieux-Vic, les avait rejoints. Les minutes passées, nous allions vite, et pourtant les trois clochers étaient toujours au loin devant nous, comme trois oiseaux posés sur la plaine, immobiles et qu'on distingue au soleil. Puis le clocher de Vieux-Vic s'écarta, prit ses distances, et les clochers de Martinville restèrent seuls, éclairés par la lumière du couchant que même à cette distance, sur leur pente, je voyais jouer et sourire. Nous avions été si longs à nous rapprocher d'eux que je pensais au temps qu'il faudrait encore pour les atteindre, quand tout d'un coup, la voiture ayant tourné, elle nous déposa à leurs pieds. Et ils s'étaient jetés si rudement au-devant d'elle qu'on n'eut que le temps d'arrêter pour ne pas se heurter au porche. Nous poursuivîmes notre route. Nous avions déjà quitté Martinville depuis un peu de temps, et le village, après nous avoir accompagnés quelques secondes, avait disparu, que restait seul à l'horizon à nous regarder fuir, ses clochers et celui de Vieux-Vic agitaient encore en signe d'adieu leurs cimes ensoleillées. Parfois l'un s'effaçait pour que les deux autres puissent nous apercevoir un instant encore, mais la route changea de direction, et ils virèrent dans la lumière comme trois pivots d'or, et disparurent à mes yeux. Mais un peu plus tard, comme nous étions déjà près de Combray, le soleil étant maintenant couché, je les aperçus une dernière fois de très loin, qui n'étaient plus que comme trois fleurs peintes sur le ciel, au-dessus de la ligne basse des champs. Ils me faisaient penser aussi aux trois jeunes filles d'une légende, abandonnées dans une solitude où tombait déjà l'obscurité. Et tandis que nous nous éloignions au galop, je les vis timidement chercher leur chemin, et après quelques gauches trébuchements de leurs nobles silhouettes se serrer les uns contre les autres, glisser l'un derrière l'autre, ne plus faire sur le ciel encore rose qu'une seule forme noire, charmante et résignée, et s'effacer dans la nuit. Je ne repensais jamais à cette page, mais à ce moment-là, quand au coin du siège où le cocher du docteur plaçait habituellement dans un panier les volailles qu'il avait achetées au marché de Martinville, j'eus fini de l'écrire, je me trouvais si heureux. Je sentais qu'elle m'avait si parfaitement débarrassé de ses clochers et de ce qu'ils cachaient derrière eux, que comme si j'avais été moi-même une poule, et si je venais de pondre un œuf, je me mis à chanter à tue-tête. Pendant toute la journée, dans ces promenades, j'avais pu rêver au plaisir que ce serait d'être l'ami de la duchesse de Guermantes, de pêcher la truite, de me promener en barque sur la Vivonne, et, avide de bonheur, ne demander en ces moments-là rien d'autre à la vie que de se composer toujours d'une suite d'heureux après-midi. Mais quand sur le chemin du retour j'avais aperçu sur la gauche une ferme assez distante de deux autres qui étaient au contraire très rapprochées, et à partir de laquelle, pour entrer dans Combray, il n'y avait plus qu'à prendre une allée de chênes bordée d'un côté de prés appartenant chacun à un petit clos et plantée à intervalles égaux de pommiers, qui portaient, quand ils étaient éclairés par le soleil couchant, le dessin japonais de leurs ombres. Brusquement, mon cœur se mettait à battre. Je savais qu'avant une demi-heure, nous serions rentrés, et que comme c'était de règle les jours où nous étions allés du côté de Guermantes, et où le dîner était servi plus tard, on m'enverrait me coucher sitôt ma soupe prise, de sorte que ma mère, retenue à table comme s'il y avait du monde à dîner, ne monterait pas me dire bonsoir dans mon lit. La zone de tristesse où je venais d'entrer était aussi distincte de la zone où je m'élançais avec joie il y avait un moment encore, que dans certains ciels, une bande rose est séparée, comme par une ligne, d'une bande verte ou d'une bande noire. On voit un oiseau voler dans le rose, il va en atteindre la fin, il touche presque au noir, puis il y est entré. Les désirs qui tout à l'heure m'entouraient d'aller à Guermantes, de voyager, d'être heureux, j'étais maintenant tellement en dehors d'eux que leur accomplissement ne m'eût fait aucun plaisir. Comme j'aurais donné tout cela pour pouvoir pleurer toute la nuit dans les bras de maman. Je frissonnais, je ne détachais pas mes yeux angoissés du visage de ma mère qui n'apparaîtrait pas ce soir dans la chambre où je me voyais déjà par la pensée. J'aurais voulu mourir. Et cet état durerait jusqu'au lendemain, quand les rayons du matin, appuyant comme le jardinier leurs barreaux aux murs revêtus de capucines qui grimpaient jusqu'à ma fenêtre, je sauterai à bas du lit pour descendre vite au jardin, sans plus me rappeler que le soir ramènerait jamais l'heure de quitter ma mère. Et de la sorte, c'est du côté de Guermantes que j'ai appris à distinguer ces états qui se succèdent en moi pendant certaines périodes et vont jusqu'à se partager chaque journée, l'un revenant chasser l'autre avec la ponctualité de la fièvre, contiguë, mais si extérieurs l'un à l'autre, si dépourvus de moyens de communication entre eux, que je ne puis plus comprendre, plus même me représenter, dans l'un, ce que j'ai désiré ou redouté ou accompli dans l'autre. Aussi, le côté de mes églises et le côté de Guermantes restent-ils pour moi liés à bien des petits événements de celles de toutes les diverses vies que nous menons parallèlement, qui est la plus pleine de péripéties, la plus riche en épisodes, je veux dire la vie intellectuelle. Sans doute elle progresse en nous insensiblement, et les vérités qui en ont changé pour nous le sens et l'aspect, qui nous ont ouvert de nouveaux chemins, nous en préparions depuis longtemps la découverte, mais c'était sans le savoir. Et elles ne datent pour nous que du jour, de la minute où elles nous sont devenues visibles. Les fleurs qui jouaient alors sur l'herbe, l'eau qui passait au soleil, tout le paysage qui environna leur apparition continue à accompagner leurs souvenirs de son visage inconscient ou distrait. Et certes, quand ils étaient longuement contemplés par cet humble passant, par cet enfant qui rêvait, comme l'est un roi par un mémorialiste perdu dans la foule, ce coin de nature, ce bout de jardin n'eussent pu penser que ce serait grâce à lui qu'ils seraient appelés à survivre à leurs particularités les plus éphémères. Et pourtant, ce parfum d'aubépine qui butine le long de la haie où les églantiers le remplaceront bientôt, un bruit de pas sans écho sur le gravier d'une allée, une bulle formée comme une plante aquatique par l'eau de la rivière et qui crève aussitôt, mon exaltation les a portés et a réussi à leur faire traverser tant d'années successives, tandis qu'autour les chemins se sont effacés et que sont morts ceux qui les foulèrent, et le souvenir de ceux qui les foulèrent. Parfois ce morceau de paysage amené ainsi jusqu'à aujourd'hui se détache si isolé de tout qu'il flotte incertain dans ma pensée comme une délosse fleurie, sans que je puisse dire de quel pays, de quel temps, peut-être tout simplement de quel rêve il vient. Mais c'est surtout comme un dégisement profond de mon sol mental, comme au terrain résistant sur lequel je m'appuie encore, que je dois penser aux côtés de mes églises et aux côtés de Guermantes. C'est parce que je croyais aux choses, aux êtres, tandis que je les parcourais, que les choses, les êtres m'ont fait connaître, sont les seuls que je prenne encore au sérieux et qui me donnent encore de la joie. Soit que la foi qui crée soit tarie en moi, soit que la réalité ne se forme que dans la mémoire, les fleurs que me montrent aujourd'hui pour la première fois ne me semblent pas de vraies fleurs. Le côté de mes églises avec ses lilas, ses aubépines, ses bluets, ses coquelicots, ses pommiers, le côté de Guermantes avec sa rivière à têtards, ses nymphéas et ses boutons d'or, ont constitué à tout jamais pour moi la figure des pays où j'aimerais vivre, où j'exige avant tout qu'on puisse aller à la pêche, se promener en canot, voir des ruines de fortifications gothiques et trouver au milieu des blés, ainsi qu'était Saint-André-des-Champs, une église monumentale, rustique et dorée comme une meule. Et les bluets, les aubépines, les pommiers qu'il m'arrive quand je voyage de rencontrer encore dans les champs, parce qu'ils sont situés à la même profondeur, au niveau de mon passé, sont immédiatement en communication avec mon cœur. Et pourtant, parce qu'il y a quelque chose d'individuel dans les lieux. Quand me saisit le désir de revoir le côté de Guermantes, on ne le satisferait pas en me menant au bord d'une rivière où il y aurait d'aussi beaux, de plus beaux nymphéas que dans la Vivonne. Pas plus que le soir en rentrant, à l'heure où s'éveillait en moi cette angoisse qui plus tard émigre dans l'amour et peut devenir à jamais inséparable de lui, je n'aurais souhaité que vînt me dire bonsoir une mère plus belle et plus intelligente que la mienne. Non, de même que ce qu'il me fallait pour que je puisse m'endormir heureux, avec cette paix sans trouble qu'aucune maîtresse n'a pu me donner depuis, puisqu'on doute d'elle encore au moment où on croit en elle, et qu'on ne possède jamais leur cœur comme je recevais dans un baiser celui de ma mère, tout entier, sans la réserve d'une arrière-pensée, sans le reliquat d'une intention qui ne fut pas pour moi. C'est que ce fut elle. C'est qu'elle inclina vers moi ce visage où il y avait, au-dessous de l'œil, quelque chose qui était, paraît-il, un défaut, et que j'aimais à l'égal du reste. De même, ce que je veux voir, c'est le côté de Guermantes que j'ai connu, avec la ferme qui est un peu éloignée des deux suivantes serrées l'une contre l'autre, à l'entrée de l'allée des chênes. Ce sont ces prairies où, quand le soleil les rend réfléchissantes comme une mare, se dessinent les feuilles des pommiers. C'est ce paysage dont parfois la nuit dans mes rêves l'individualité m'étreint avec une puissance presque fantastique et que je ne peux plus retrouver au réveil. Sans doute pour avoir à jamais indissolublement uni en moi des impressions différentes, rien que parce qu'il me les avait fait éprouver en même temps, le côté de mes églises ou le côté de Guermantes m'ont exposé pour l'avenir à bien des déceptions et même à bien des fautes. Car souvent j'ai voulu revoir une personne sans discerner que c'était simplement parce qu'elle me rappelait une haie d'aubépine. Et j'ai été induit à croire, à faire croire à un regain d'affection par un simple désir de voyage. Mais par là même aussi, et en restant présent en celle de mes impressions d'aujourd'hui auxquelles ils peuvent se relier, ils leur donnent des assises, de la profondeur, une dimension de plus qu'aux autres. Ils leur ajoutent aussi un charme, une signification qui n'est que pour moi. Quand par les soirs d'été le ciel harmonieux gronde comme une bête fauve et que chacun bout de l'orage, c'est aux côtés de mes églises que je dois de rester seul en extase, à respirer à travers le bruit de la pluie qui tombe, l'odeur d'invisible et persistant lilas. C'est ainsi que je restais souvent jusqu'au matin à songer au temps de Combray, à mes tristes soirées sans sommeil, à tant de jours aussi dont l'image m'avait été plus récemment rendue par la saveur, ce qu'on aurait appelé à Combray le parfum d'une tasse de thé, et par association de souvenirs à ce que, bien des années après avoir quitté cette petite ville, j'avais appris au sujet d'un amour que Swann avait eu avant ma naissance. Avec cette précision dans les détails, plus facile à obtenir quelquefois pour la vie de personnes mortes il y a des siècles que pour celle de nos meilleurs amis, et qui semble impossible, comme semblait impossible, de causer d'une ville à une autre, tant qu'on ignore le biais par lequel cette impossibilité a été tournée. Tous ces souvenirs, ajoutés les uns aux autres, ne formaient plus qu'une masse, mais non sans qu'on ne pût distinguer entre eux, entre les plus anciens et ceux plus récents, nés d'un parfum, puis ceux qui n'étaient que les souvenirs d'une autre personne de qui je les avais appris, sinon des fissures, des failles véritables, du moins ces vénures, ces bigarrures de coloration, qui, dans certaines roches, dans certains marbres, révèlent des différences d'origine, d'âge, de formation. Certes, quand approchait le matin, il y avait bien longtemps qu'était dissipée la brève incertitude de mon réveil. Je savais dans quelle chambre je me trouvais effectivement, je l'avais reconstruite autour de moi dans l'obscurité, et soit en m'orientant par la seule mémoire, soit en m'aidant, comme indication, d'une faible lueur aperçue au pied de laquelle je plaçais les rideaux de la croisée, Je l'avais reconstruite tout entière et meublée comme un architecte et un tapissier qui gardent leur ouverture primitive aux fenêtres et aux portes. J'avais reposé les glaces et remis la commode à sa place habituelle. Mais à peine le jour, et non plus le reflet d'une dernière braise sur une tringle de cuivre que j'avais pris pour lui, traçait-il dans l'obscurité et comme à la craie sa première raie blanche et rectificative, que la fenêtre avec ses rideaux quittait le cadre de la porte où je l'avais située par erreur, tandis que pour lui faire place, le bureau, que ma mémoire avait maladroitement installé là, se sauvait à toute vitesse, poussant devant lui la cheminée et écartant le mur mitoyen du couloir. Une cour étreignait à l'endroit où il y a un instant encore s'étendait le cabinet de toilette, et la demeure que j'avais rebâtie dans les ténèbres était allée rejoindre les demeures entrevues dans le tourbillon du réveil. Mise en fuite par ce pâle signe qu'avait tracé au-dessus des rideaux, le doigt levé du jour.